France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une série proposée par Georges Charansol et Roger Régent au début des années 50 donnait la parole à René Clair, une parole assez écrite, et le faisait revenir sur sa carrière en France et en Angleterre. Des succès, des échecs, l'idée que le film se faisait avant tout à la table de travail. Au menu du 8e entretien, Le Dernier Milliardaire et Fantôme à vendre et ses histoires de gifles à travers les siècles. Première diffusion sur la chaîne nationale le 7 décembre 1951.
Rencontre avec René Clair par Georges Charansol et Roger Régent.
On peut dire que ce 14 juillet dont nous avons parlé avec Charansol et René Clair au cours de notre précédente émission marque la rupture de celui-ci avec Paris.
Pour un temps seulement, n'oubliez pas, Régent, que Le Silence est d'or, c'est encore Paris.
Oui, mais Le Silence est de 1946 et nous ne sommes encore qu'en 1935, année du Dernier Milliardaire. René Clair, parlez-nous de ce film.
Après 14 juillet, j'éprouvais une fois de plus le besoin de changer de genre. Je voulais réaliser un film comique qui ne fasse pas appel au fantastique, et d'où l'élément musical, si important dans Le Million et dans La Nouvelle Liberté, soit réduit au minimum.
Votre point de départ est-il pris dans la vie, ainsi que cela vous est souvent arrivé?
Dans un certain sens, oui, j'avais rencontré un financier international fort important qui avait des manies auxquelles son entourage devait se plier. Il forçait, par exemple, les gens qu'il invitait à déjeuner à prendre tel ou tel médicament qu'il prenait lui-même. Ceux qui avaient besoin de lui, naturellement, flattaient ses lubies. Et il me sembla que, pour un tel personnage, mis au cinéma, le cadre d'une principauté de fantaisie conviendrait parfaitement.
Aviez-vous conscience que vous alliez reprendre un certain nombre des thèmes qui semblaient vous obséder alors, ceux du machinisme, de la liberté individuelle?
Oui, c'est peu à peu, en travaillant, que le sujet s'est développé comme une satire de la dictature. Mais ce qui est curieux, c'est que nombre de détails tragico-comiques que j'avais imaginé pour illustrer la folie à laquelle sont conduits les dictateurs, ont pris plus tard le caractère de prophétie.
Mais n'aviez-vous pas auparavant cherché un autre sujet?
Oh oui, j'avais même écrit plusieurs versions d'un scénario intitulé Le diadème de Charlemagne et dont je ne suis jamais sorti.
Il vous est souvent arrivé d'entreprendre des sujets que vous avez abandonnés en cours de route?
Oh, j'ai en effet dans mes tiroirs pas mal de scénarios, presque prêt à être tourné, mais je sais bien, moi, que je ne les réaliserai jamais.
Je crois que lorsque vous ne tournez pas un film du premier coup, il y a peu de chances de vous voir le reprendre ensuite.
Oh, je ne crois pas être une exception. Si, à un problème donné, je ne trouve pas de solution sur le moment, il y a peu de chances que j'en trouve plus tard, quand le premier feu de l'enthousiasme est passé.
Il n'en reste pas moins qu'il y a dans vos archives d'innombrables quantités d'idées excellentes, qu'il est regrettable de voir se perdre dans les tiroirs. Ne pensez-vous pas que vous poussez trop loin la minutie dans la préparation du travail?
Je vous ai déjà dit que pour moi, un film se faisait à la table de travail. Je ne crois pas, pour moi, au hasard heureux de la caméra.
Préparer un script dans le moindre détail comme vous le faites doit représenter un travail immense.
Et fastidieux, mais indispensable si on est persuadé, comme je le suis moi-même, que l'improvisation est périlleuse au cinéma. Si on a des idées, pourquoi attendre pour les fixer? D'être dans un studio dont la location coûte des millions, alors qu'une feuille de papier et un stylo suffisent.
Mais ce qu'on imagine ainsi à sa table de travail peut-il toujours se réaliser?
Oh, quand on possède suffisamment son métier, on ne conçoit que ce qu'on sait réalisable. Tout au plus, une conscience trop nette de tous les problèmes peut-elle freiner l'inspiration. Ce qui est certain, c'est que l'essentiel, c'est-à-dire ce qui peut retenir l'intérêt du public, toute la construction dramatique, doit se concevoir avant. En revanche, je comprends très bien qu'on envisage les détails techniques après. Autrefois, je découpais mes scénarios avec la plus grande précision, mais maintenant, je me donne un peu plus de liberté au studio.
C'est le contraire qui se produit pour les dialogues. Longtemps, vous avez laissé les acteurs les improviser sur canevas, alors que maintenant, vous les travaillez avec la même précision que vos découpages.
Et il est exact que les premiers dialogues que j'ai jamais écrits pour le cinéma sont ceux du dernier milliardaire.
Voici le sujet du dernier milliardaire. Gérard Philippe, nous vous écoutons.
Le petit royaume de Casinario est sans argent. Il est des républiques qui, sur ce point, sont des royaumes. Le seul casinarien susceptible de sauver son pays est le financier Banco, Max Derli. On le fait venir à Casinario en lui promettant la main de la princesse Isabelle, René Saint-Cyr, s'il verse ses millions. Banco bouleverse la cour, rend les ministres ridicules, avant que de devenir lui-même grotesque. Frappé de folie subite, il continuera néanmoins à assumer les fonctions de dictateur sans rencontrer la moindre opposition. Lorsque la raison lui reviendra, sa fiancée sera partie avec le séduisant chef de l'orchestre royal. Il n'importe, il épousera la reine et ne lui révélera qu'au moment de paraître devant le peuple qu'il est ruiné et qu'il compte, pour subsister, sur la petite pension qu'elle ne peut manquer de lui accorder désormais.
Marche de Casinario, hymne national du pays imaginaire où se passe le dernier milliardaire, est de Maurice Jaubert, qui avait déjà écrit la musique de 14 juillet. Hélas, Jaubert, avec qui j'avais eu la joie de faire deux films et qui était devenu un des premiers parmi les compositeurs de musique de films, a été tué dès le début de la guerre en 1939.
Quittant la Tobis, vous avez travaillé pendant 4 ans, vous réalisez le dernier milliardaire pour la puissante société Pathé-Nathan.
Oui, c'est André Lang qui, apprenant que mes producteurs habituels ne tenaient pas à ce sujet, m'a mis en rapport avec Émile Nathan, qui était le grand directeur de la compagnie à cette époque. J'avais connu Émile Nathan au début de ma carrière, dans l'usine de tirage où avait été développé Paris qui dort. Il m'accueillit et me donna la première occasion que j'ai eue de travailler pour une grande firme française.
Le film sorti, je crois, au Marignan au printemps de 1934.
Oui, auparavant, il avait été l'objet de ce qu'on appelle en Amérique une preview. C'est-à-dire qu'un soir, on l'avait présenté inopinément au Luxor, devant un public normal. Le Luxor est une salle populaire de Paris. L'accueil est excellent, tous les effets portent, la salle rit sans arrêt. Et ce succès incite le producteur à sortir le film dans sa plus grande salle avec un lancement considérable.
Et les Champs-Élysées ne reçurent pas le dernier milliardaire avec la même chaleur que le boulevard Magenta.
Moi, le film sortit dans l'après-midi qui précéda la soirée de gala. En y passant, je constate que le comique un peu grinçant de la première partie est accueilli par ce public de l'après-midi avec les rires que j'espérais, mais qu'à partir de la moitié du film, on commence à siffler. À ce moment, je sais très bien ce qui va se passer le soir et je ne serai pas déçu. Garde républicain à l'entrée, robe du soir, salle comble, mais dès le milieu du film, impossible d'entendre un seul mot. Tant les spectateurs sont déchaînés.
Que s'était-il passé ?
Mais il s'était passé d'abord que nous nous étions trompés, que le film n'était pas réussi. D'autre part, la réaction politique qui avait suivi le 6 février ne disposait pas le public à voir traiter sur le mode bouffon certaines manières de résoudre les problèmes du gouvernement. Il ne pouvait pas non plus prendre plaisir à voir tourner en ridicule une petite cour 15 jours après l'assassinat à Marseille du roi de Yougoslavie, ce qui, véritablement, était imprévisible pour nous.
La présence au centre du film d'un comédien comme Max Derli, fort peu rompu à l'optique du cinéma, n'est-elle pas pour quelque chose dans cet échec ?
Je ne crois pas. J'ai toujours regretté de n'avoir pas travaillé plus tôt avec ce grand comédien qui était Max Derli, qui aurait pu devenir un caractère important du cinéma s'il avait commencé en temps utile. Ce dont je me suis rendu compte, surtout, c'est qu'il est impossible d'intéresser les spectateurs à une histoire dont aucun des protagonistes n'éveille la moindre sympathie. Et je considère comme si probante à cette époque-là la démonstration que m'apporte le dernier milliardaire qu'aussitôt après, j'annule les contrats et décommande un grand décor métallique en construction Épinay pour le film que j'allais commencer et qui s'apparentait aussi au genre burlesque et devait s'appeler « Il a été perdu ».
Les jugements sévères portés alors sur le dernier milliardaire n'ont pas été complètement révisés.
Mais l'accueil fait à l'étranger à ce film fut très différent de celui qu'il avait reçu en France. L'Angleterre le donnera même pendant la guerre comme une œuvre antifasciste.
Dès la première représentation, les réactions de Londres avaient été meilleures. C'est à l'issue de la projection même qu'Alexandre Cordam fit signer un accord pour 3 films que je devais réaliser en Angleterre pour sa compagnie et en 2 ans.
Vous quittez la France pour 2 ans et il s'en écoulera 13 avant que vous remettiez les pieds dans un studio français.
Ça, c'est encore un hasard. Les circonstances ont prolongé, au-delà de toute mesure, l'effet du désir de renouvellement que j'éprouvais alors.
Est-ce à cause de ce désir que, pour la première fois de votre vie, vous allez accepter de travailler avec un auteur connu ?
Vous faites allusion à Robert Sherwood, avec qui j'allais écrire, en effet, le scénario de Fantôme à vendre. Alexandre Cordat avait acheté les droits d'une petite nouvelle d'Eric Keown, parue dans le Punch. Et ses scénaristes avaient tenté d'en tirer un rôle pour Charles Laughton. Alors que je n'étais pas encore engagé par lui, Cordat un soir me raconta le sujet qui me parut si intéressant que je lui proposai de lui racheter. Il refusa et me répondit « Non, quand vous serez libre, venez plutôt le tourner pour moi ». Maintenant que j'avais signé avec lui, je repris naturellement l'idée, mais je me rendis bientôt compte qu'il était difficile de faire d'un fantôme, être irréel par définition, le personnage central d'un grand film. Et j'étais prêt, une fois de plus, à tout abandonner. Et j'étais même déjà rentré en France, quand Cordat me téléphona pour me demander de venir mettre en scène Charles Laughton dans Cyrano de Bergerac, pour écarter ce projet qui, vraiment, ne me convenait pas. Je lui répondis que j'avais trouvé pour Fantôme à vendre la solution que je cherchais.
Il n'en était rien naturellement, mais poussé par la nécessité, cette solution, vous l'avez trouvée.
Moi, elle était bien simple. L'histoire des sosies et de tous les temps, depuis le théâtre grec. Je fis intervenir un sosie en chair et en os qui vint se substituer au moment voulu au fantôme par trop inconsistant.
Je crois qu'à cette époque, vous connaissiez assez mal l'anglais.
Et moins bien encore le public anglo-saxon pour qui j'allais travailler. Et sur un sujet qui joue sur les différences entre les accents anglais, écossais et américains pour un début.
C'est alors que vous commencez à travailler avec Robert Sherwood, non sans appréhension sans doute, puisqu'il ne vous était jamais arrivé encore d'avoir un collaborateur qui ne fût pas un associé intime.
Oh, ces appréhensions cédèrent vite. Sur la continuité, la première continuité que je lui remis, Sherwood écrivit une adaptation complète avec scènes et dialogues. Nous travaillions chacun de notre côté, nous communiquant notre travail réciproque, et le résultat fut excellent. Et il m'apporta, entre autres dons, cette chose inappréciable, un crible de mes idées françaises sur un sujet typiquement anglo-saxon.
Le script, commencé dans ces conditions en avril 1935, est terminé en juillet, et vous entrez aussitôt au studio d'Hounslow. Vous vous êtes adapté facilement aux méthodes de travail anglaises ?
Assez mal au début. J'avais été gâté par toutes les facilités que je trouvais dans ma vieille maison d'Épinay et j'éprouvais les effets normaux du dépaysement.
Rappelez-nous le thème de Fantôme à vendre.
L'action débute au XVIIIe siècle dans le château des Glowry en Écosse. Une rivalité acharnée oppose les Glowry aux MacLagan, seigneurs voisins. Et ces derniers viennent insulter et gifler le vieux Glowry. Celui-ci, sur le point de mourir, remet à son fils Murdoch le soin de le venger. Mais Murdoch, plus préoccupé de faire la cour aux demoiselles que de venger l'honneur familial, alors qu'au milieu d'une bataille il embrassait une bergère derrière une meule de foin, se fait tuer par un boulet. Murdoch, du haut du ciel, est maudit par son aïeul qui le condamne à errer sous forme de fantôme jusqu'à ce qu'un Glowry ait giflé à son tour un MacLagan. Deux siècles passent. Le fantôme de Murdoch hante toujours le château des Glowry, dont le dernier descendant, Donald, complètement ruiné, doit vendre le domaine à un milliardaire américain, Joey Martin, dont la fille, Peggy, est ravissante. Martin transporte pierre par pierre le vieux château écossais dans le Nouveau Monde, et le fantôme est bien obligé de suivre les morceaux de son château et d'entendre ses chères cornemuses écossaises jouer à présent par un orchestre noir. C'est là, aux États-Unis, que le fantôme retrouvera par hasard un descendant des McLagan, aujourd'hui citoyen américain, et qu'il pourra, par une gifle, venger l'honneur de son clan. L'âme de Murdoch trouvera enfin la paix. Il n'y aura plus de fantôme errant dans le château des Glowry.
La ravissante musique que nous venons d'entendre est celle du film, n'est-ce pas, René Clair ?
Oui, c'est un leitmotiv qui compose toute la musique du film et qui a été écrit par Spolianski sur le thème d'une vieille chanson de berger écossais. Quand nous avons commencé le film et que nous avons discuté l'idée de l'adaptation musicale, nous nous sommes fait jouer différentes chansons écossaises de l'époque du XVIIIe siècle où se situe le début de l'action, et l'une d'elles nous a semblé si fine, si belle, on dirait du Mozart écossais, et en même temps si riche, que nous avons pu la choisir et que Spolianski en a tiré toute l'adaptation du film.
Le film fut présenté à Londres le 17 décembre 1935 en présence de la reine d'Angleterre. Il remporta un triomphe, aussi bien en Angleterre qu'en Amérique, et il obtint le Grand Prix du film britannique.
C'est pour vous l'occasion de faire votre premier voyage aux États-Unis.
En janvier 1936, je suis allé en effet présenter le film à New York, où j'obtins sans préméditation un succès de publicité bien involontaire quand je déclarais en arrivant que malgré les offres qui m'étaient faites, je n'avais pas l'intention d'aller à Hollywood.
Ces propositions ne vous intéressaient donc pas ?
Pas sous la forme où elles étaient faites par ces grands pontifes. Et je leur répondais par des contre-propositions qui firent dire à l'un d'eux, si nous laissions nos metteurs en scène travailler aussi librement que le voudrait ce Français, et s'ils réussissaient, à quoi servirions-nous ?
Rencontre avec René Clair par Georges Charansol et Roger Régent. Gérard Philippe participait à cette 8e émission. Assistante, Olga Lancement. Réalisation, Jean-Wilfried Garrett.
Cette émission, la 8e de la série, a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 7 décembre 1951. 3 semaines plus tard, il était question d'un film plus proche de la date de la diffusion de l'émission, Le silence est d'or, mais aussi de La beauté du diable.
Rencontre avec René Clair, par Georges Charansol et Roger Régent.
Nous voici en 1945, au moment où René Clair, après avoir réalisé 6 films en Angleterre et en Amérique, va enfin, après 12 ans, travailler à nouveau en France.
Pourtant, mon cher Charansol, à la fin de notre dernière rencontre, nous avons laissé René Clair à Hollywood.
Oui, bien que la guerre soit terminée, je dois obtenir l'autorisation de traverser l'Atlantique, ce qui, à ce moment-là, n'est pas facile. Je ne l'ai qu'au mois de juillet 1945.
Vous arrivez à Paris pour trouver votre appartement pillé par les Allemands qui l'avaient occupé et votre chère bibliothèque dévastée.
Oui, le travail fut fait par des hommes de goût, car ils ont emporté tout ce à quoi je tenais le plus.
Il faudra bien des visites à la foire aux puces, bien des stations chez les bouquinistes pour reconstituer l'atmosphère de votre maison de Neuilly.
Ce premier séjour à Paris est bref, car il est surtout destiné à préparer mon retour définitif. Et c'est après avoir signé un contrat pour un film à tourner en France que je repars pour Hollywood.
Le film qui va marquer votre rentrée dans nos studios sera bien français, puisque c'est le charmant Silencé d'or.
Vous avez passé la fin de 1945 et le début de 1946 en Californie.
Oui, mais en esprit, je suis déjà en France, puisque je travaille au scénario de ce film.
Ne devez-vous pas en faire une coproduction franco-anglaise?
Oui, cet accord n'est pas réalisé. Et pendant un temps, je me demande même si je ne dois pas renoncer au film français dont j'ai eu l'idée. Enfin, la société américaine RKO, qui a signé un accord à ce moment-là avec la société française Pathé, me propose un contrat de 2 films, l'un pour Le Silencé d'or et l'autre pour un film américain à choisir entre nous. J'achève mon scénario, dont le principal rôle devait primitivement être tenu par Rému, et enfin je regagne Paris. Les pourparlers entre Rému et les producteurs ont traîné en longueur, et entre-temps Rému a eu un grave accident d'automobile. C'est alors que je pense à un autre grand artiste, Maurice Chevalier. Seulement, Rému et Chevalier ne sont pas du même emploi, comme on dit au théâtre. Pour adapter au tempérament du second le rôle esquissé pour le premier, des modifications sont indispensables et je dois recommencer toute une partie de mon travail.
Vous ne regretterez pas cette détermination car Chevalier sut nous donner une image des plus véridiques d'un metteur en scène de l'époque héroïque. Gérard Philippe, lisez-nous ce que Jean Faillard écrivait du Silencé d'or.
Émile dirige un petit studio de cinématographe où on tourne un peu de tout suivant la demande des foires et des cafés, drames et comédies en tout genre. Il profite de cette situation et de son expérience pour faire le joli cœur auprès des dames. Il donne des conseils pratiques à un brave petit jeune homme qui travaille chez lui et qui l'a pris en amitié, mais qui est encore bien gotiche avec les demoiselles.
Imbécile.
Patron, je suis désolé.
Tu peux l'être, tomber amoureux comme un collégien, à ton âge. Tu ne connais pas encore les femmes?
Je croyais qu'elle n'était pas comme les autres.
Elle n'était pas comme les autres. Elle était pire.
C'est bien ma chance.
Alors, fais pas cette tête là-bas, ça n'en vaut pas la peine. Aucune femme n'en vaut la peine.
Rappelle-toi toujours ceci.
Une de perdue, 10 de retrouvée.
Alors on reste là, le cœur serré, les yeux emplis de pleurs. Lorsque tout est
ces chances-là, c'est pour les imbéciles comme toi. Ceux qui croient à l'amour, qui se lamentent et qui se fichent à l'eau.
Vous exagérez.
Oh, je t'ai vu depuis que je te connais, hein. Le petit timide dans le coin là, avec le bouquet de violettes. Résultat, tu pleures. Comme dans la chanson. Pour une femme. Une seule. Alors qu'il y en a tant d'autres.
Un beau jour, Émile héberge par pure charité la fille d'un ancien camarade de music hall dont il avait aimé la mère jadis. Petit à petit, il en devient amoureux. Elle n'éprouve à son endroit qu'une sorte de reconnaissance filiale. Et voici qu'elle rencontre le naïf jeune homme et qu'elle l'aime du premier coup. Les scrupules arrêtent celui-ci quand il connaît cette géographie sentimentale. Mais Émile, abandonnant l'attitude égoïste d'Arnolphe, donne sa bénédiction aux deux jeunes gens et s'efface devant leur bonheur.
Vous nous disiez tout à l'heure que ce sujet, vous l'avez modifié en fonction de la personnalité de Maurice Chevalier. Pourriez-vous nous dire quel en aurait été le caractère si Rému avait joué le rôle?
Oh, je ne sais pas. Le film aurait sans doute été plus dramatique et sentimental, mais il aurait été privé de ses qualités de légèreté et de comédie que Maurice Chevalier lui a apportées.
Avez-vous voulu nous donner une version moderne de l'école des femmes, où les analogies entre votre sujet et celui de la pièce de Molière ne vous sont-elles apparues qu'après coup?
Non, le thème est un thème classique. Nul plus que moi n'admire l'école des femmes. Et c'est consciemment que je m'en suis inspiré de très loin et en quelques endroits seulement. D'ailleurs, le thème de l'amitié, qui joue un grand rôle dans ce film...
Comme dans la plupart de vos films.
...n'est pas un thème moliéresque. Il m'a semblé que la situation serait plus facile à traiter, pour moi tout au moins, si cette fois Arnolphe était l'ami d'Horace.
Nous avons déjà signalé que Le silence est d'or est en même temps qu'un film psychologique...
Ce qui, au cinéma, est plus rare qu'on ne pense.
...un hommage aux premiers artisans du cinéma français. Comment l'idée vous est-elle venue de créer le personnage du metteur en scène Clément ? Avez-vous pensé à Méliès, à Zeka ?
Oh non, à personne en particulier. Tout au plus, me suis-je peut-être souvenu de quelques incidents survenus quand je travaillais avec Louis Feuillade.
Aux côtés de Maurice Chevalier, vous avez distribué les deux principaux rôles à Marcel Derrien et à François Perrier, et comme pour retrouver l'atmosphère des studios français que vous aviez si longtemps déserté, vous engagez deux comédiens qui avaient été vos interprètes 20 ans auparavant, Paul Olivier et Gaston Modeau.
Oui, et grâce à eux, la réalisation de ce film se déroule dans une atmosphère inoubliable pour moi, au studio de Joinville. Et l'ambiance qui règne sur le plateau pendant les prises de vue est précisément celle que le film veut exprimer.
Le silence est d'or obtint les grands prix au Festival de Bruxelles et de Locarno.
Oui, ce qui n'empêche que dans les pays anglo-saxons, le même film n'obtint qu'un succès d'estime.
Mais pourquoi cela ?
Pas assez d'action, sans doute. Et puis, le thème du vieil amoureux n'est peut-être intéressant que pour ces latins, pour nous. Ces latins qui font aux choses de l'amour une place démesurée. Les variations sur les thèmes de la passion amoureuse, que l'on trouve si abondamment dans le théâtre français, n'ont pour ainsi dire jamais pénétré dans le théâtre anglais, américain ou même, si je ne m'abuse, allemand. Excusez-moi de mêler de grands noms à cette observation, mais même dans Shakespeare...
Et Roméo et Juliette.
Mais quand Roméo et Juliette se rencontrent, c'est le coup de foudre. Les complications dramatiques viennent des rivalités familiales et non pas de ce que Marcel Proust appelait les intermittences du cœur.
Et pourtant Othello...
Mais le drame d'Othello se joue entre Othello et Iago et non pas entre Othello et Desdémone. Pour ces personnages, ne se pose aucun des problèmes amoureux que l'on trouve aussi bien dans Racine que dans Marivaux, dans Musset et dans les meilleures œuvres de leurs successeurs. Une remarque éclaire encore mieux cette observation. Je ne crois pas qu'on ait jamais joué Musset ni Marivaux en Angleterre ou aux États-Unis.
C'est dire qu'une œuvre comme Le silence est d'or ne peut être goûtée de ceux qui sont éloignés de la tradition qui la fit naître.
Même si elle n'en est qu'un pâle reflet. Et d'un autre côté, le goût de l'action et de la violence que l'on trouve dans beaucoup de films américains n'est pas entièrement détaché d'une sorte de tradition shakespearienne. Cette expérience, celle du silence est d'or, m'a appris qu'il est difficile de vouloir toucher à la fois le public européen et les anglo-saxons. Si l'on y réussit, tant mieux, mais c'est un hasard et dont il ne faut pas que l'espoir nous conduise aux moins admissibles concessions.
Pourtant, vous avez mis au point pour la version anglaise un procédé des plus ingénieux qui évite à la fois les inconvénients du doublage et ceux du sous-titre surimprimé.
Oui, il s'agissait d'un commentaire dit par Maurice Chevalier en langue anglaise et qui se superpose au dialogue original.
Vous faites alors un séjour de plusieurs mois aux États-Unis pour mettre au point avec votre collaborateur américain Robert Payroche cette version.
Oui, j'y reste aussi pour terminer le contrat que j'ai avec la société Arkeo et qui comporte un deuxième film que je n'ai d'ailleurs pas fait, faute d'un projet acceptable de part et d'autre.
Mais avant de quitter l'Amérique, vous aviez reçu des propositions d'Italie.
Oui, en effet, Salvo D'Angelo, directeur de la firme Universalia, me demande de venir réaliser un film français à Rome.
Pourquoi décidez-vous que ce film sera un Faust ?
Je cherche un sujet qui convienne au cadre de la production que j'ai accepté de faire. Tournant en Italie, je dois renoncer d'avance à un sujet typiquement français. Je ne puis concevoir un scénario situé dans un pays que je connais mal et dont Vittorio De Sica et ses camarades viennent de nous donner d'inoubliables images. Le cinéma ne se fait pas en rêve. Je ne puis m'abstraire de la présence du monde qui m'entoure. De grands réalisateurs peuvent, peut-être, tourner n'importe quel film n'importe où. Moi, j'en suis incapable. Les bons films sont pour moi en accord avec les pays dans lesquels ils sont faits. L'ambiance dans laquelle je travaille a pour moi une grande importance. Et pour ce nouveau film, je dois chercher un dépaysement, tenter d'y lire un thème universel. Celui de Faust m'intéresse d'abord parce qu'il a surtout été traité par les Anglais et les Allemands.
Il y a pourtant le Faust de Valéry.
Oui, c'est une exception. Car Faust est un personnage essentiellement germanique ou tout au moins nordique. Et je désire faire oublier les brumes dont il s'entoure et donner un Faust, si l'on peut dire, méditerranéen. Goethe écrit son Faust au temps où le mythe du progrès commence à régner, Aujourd'hui, tout au contraire, on doute que le progrès matériel soit au bénéfice du progrès humain. Et ce doute, il me semble que le cinéma peut l'exprimer.
Vous nous avez dit déjà quelque chose d'analogue quand nous parlions, il y a quelques semaines, d'À nous la liberté. Est-il exact que La beauté du diable soit le troisième volet d'un triptyque dont À nous la liberté serait le premier et Le dernier milliardaire le second?
Oui, il se pourrait que des préoccupations analogues se révèlent dans ces trois films.
Peut-être pourrions-nous demander à René Clair quelques détails sur la conception de La beauté du diable. C'est certainement l'une des œuvres les plus importantes qui nous est donnée, tant par l'ampleur des thèmes que par l'importance des moyens.
Ayant décidé de faire un Faust moderne, j'en fais une première ébauche. Après quoi, désireux de ne pas être seul en face d'un tel sujet, je demande à Armand Salacrou, que j'avais rencontré sur le bateau en rentrant d'Amérique, de travailler avec moi. Le tournage du film commence en août 1949.
C'est donc plus d'une année que vous avez passé sur un scénario qui est en effet le plus complexe de tous ceux que vous avez écrits. Mais vous avez eu aussi bien des difficultés matérielles à surmonter.
Oh, naturellement. Il est regrettable que les auteurs de films soient contraints de consacrer une partie de leur temps et de leurs efforts à résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir avec la création artistique. Si vous aviez donné à Auguste Renoir de mauvaises couleurs et des toiles crevées, ces chefs-d'œuvre ne seraient pas ce qu'ils sont. Mais il faut choisir. D'un côté, la liberté relative que l'on trouve en Europe, mais qui se paie d'un grand nombre de soucis matériels. De l'autre, la parfaite organisation de Hollywood, que mes confrères américains paient trop souvent d'une perte à peu près complète de leur indépendance.
Oui, le cinéma américain est au stade industriel, alors que le cinéma européen n'est à l'artisanat, ce qui a de mauvais côtés, mais aussi des bons, et la meilleure preuve est que l'on a réalisé ici d'excellents films dans des conditions difficiles.
Et le studio le plus réputé et le mieux organisé de Hollywood est celui qui a donné le moins d'œuvres qui comptent dans l'histoire du cinéma.
Les perturbations apportées à la réalisation de La beauté du diable n'auront finalement pour conséquence qu'un long retard.
Oui, j'ai trouvé beaucoup de gentillesse au cours des 4 mois que j'ai passé dans les studios de Rome. Mais on peut dire sans injustice que certaines des méthodes pratiquées en Italie pourraient être améliorées.
Dans les rôles principaux, Gérard Philippe et Michel Simon remporte auprès du public un immense succès en dépit de la complexité des personnages de Faust et du diable qu'ils incarnent.
Gérard Philippe s'est identifié aisément à son personnage. Mais pour Michel Simon, j'ai dû modifier quelque peu le sien en cours de tournage afin d'adapter le rôle à son tempérament.
La présentation à l'opéra en présence du président de la République fut très chaleureuse et le succès matériel récompensa une œuvre que sa complexité aurait pu desservir devant le grand public.
Qu'a l'avenir de si effrayant que tu veuilles me le cacher?
Oh. Rien, rien, regarde. Une année a passé, mais voici ce que le miroir reflètera. Vois avec quel respect, quel amour on t'accueillera. Chacun saura que tu es l'amant de la princesse.
Et le prince, le sera-t-il aussi?
Le prince? Dans un an, il sera mort. Le triste événement se sera produit quelques mois auparavant. Si le prince avait des soupçons, il n'est plus en état de t'en faire part. Évidemment, on ne peut empêcher des mauvais esprits de penser que le prince n'est pas mort de mort naturelle.
Veux-tu dire qu'il sera tué?
Il faut bien mourir d'une manière ou d'une autre.
Ne me cache rien.
Tu dois avouer que ce prince est un peu gênant de son vivant. Un vieux mari ne pénètre pas dans la chambre de sa jeune femme sans prévenir. Et un soir, il s'en faudra de bien peu qu'il ne vous surprenne. Heureusement, il ne pense pas à regarder derrière les rideaux. Mon ami, tu perds la tête. Quand la science permet d'user de certaines armes qui ne laissent pas de traces.
Qui commettra ce crime? Quelle est cette main?
C'est celle du fidèle serviteur qui s'est engagé à satisfaire tous tes désirs. Qu'avions-nous besoin de ce prince? Et la princesse qui donne tous les signes d'une profonde douleur sera libre de se consacrer tout entière à son nouvel amour. Ah, l'amour éternel, n'est-ce pas ce que ton cœur désire?
Tout ce que mon cœur désire, madame, est de rester toujours ainsi auprès de vous. auprès de vous. C'est là seulement que je me sens vivre. Que m'importe le monde s'il n'est pas reflété dans vos yeux?
Ce sont les mêmes mots, mais celle à qui tu t'adresses n'est plus la même. Que veux-tu, le temps passe? Cette pauvre princesse devrait bien s'en rendre compte. Mais même le diable ne pourrait lui faire entendre raison. Et voilà que tu dois subir les pleurs d'une femme jalouse. Veux-tu que je te débarrasse de celle-ci comme je t'ai débarrassé de son mari?
Non!
Ne parle pas si vite. Tu auras bien envie d'être libre, afin à ton tour de te consacrer tout entier à ta nouvelle passion. Tiens, c'en est encore une autre, à qui tu jures des sentiments éternels.
Assez, je n'ai pas besoin de savoir ces choses-là par avance.
Je t'avais prévenu.
Mais ce n'est pas là ce qui m'intéresse. Que ferai-je de mon pouvoir?
Ce qu'en font les grands conducteurs de peuple. Tu seras le maître absolu. Tu récompenseras ceux qui s'inclineront devant toutes tes volontés. Aux autres, ta bonté donnera le temps de reconnaître leurs erreurs. Et s'ils sont incorrigibles, vois-tu, les vieilles méthodes sont encore les meilleures.
Je ne ferai pas cela.
Il le faudra bien.
Mais je ne veux que le bonheur des hommes.
Et c'est pour leur bonheur que tu devras être sévère. C'est pour leur bonheur que tu travailleras chaque nuit. Faire de l'or était un jeu d'enfant pour nous. Transformer le monde grâce à la science, voilà le but suprême. Arracher à la matière son secret, utiliser l'énergie que contient chaque grain de poussière. Découverte qui te vaudra l'admiration des peuples.
Ainsi, je ne laisserai derrière moi que de la poussière et des cendres.
Tout ici-bas ne se termine-t-il pas par des cendres et de la poussière?
Et au dernier jour de ma vie. Et au dernier jour de ma vie.
Ne regarde pas.
Je veux voir mon destin. Enfin.
Pourquoi veux-tu te punir toi-même?
Les années que tu m'as données se seront évanouies. Il sera près de minuit. La dernière des nuits que je passerai sur la terre sera semblable aux autres nuits. Pour tous, ce sera une nuit comme les autres. Sauf pour moi. Seul, je saurai qu'un créancier impitoyable rôde autour de mon âme. Il n'y aura personne parmi ses amis et ses serviteurs dévoués pour partager mon secret. Il n'y aura personne pour savoir que Faust n'a plus qu'un instant à vivre. Qu'il va être damné pour l'éternité. L'enfer réclamera son droit, il criera « Faust, viens ! Ton heure est presque arrivée !»
Rencontre avec René Clair par Georges Charansol et Roger Réjean. Gérard Philippe participait à cette 11e émission. Assistante Olga Lancement, réalisation Jean-Wilfried Garrett. Ce 11e volet d'une série d'entretiens avec René Clair a été diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 7 décembre 1951. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique des Nuits de France Culture, ainsi que le 8e volet qui évoquait le dernier milliardaire et fantôme à vendre.